Bonjour amis auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne. Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre studio M. Patrice Calvel, architecte en chef des monuments historiques, et nous avions déjà eu l'occasion de faire avec lui une très intéressante émission sur d'abord le rôle d'un architecte en chef des monuments historiques dans la restauration et la conservation des monuments historiques. Nous avions parlé de la conservation de la pierre des vitraux, et aujourd'hui nous voudrions comparer deux cathédrales très différentes, la cathédrale d'Albi et celle de Chartres, puisque Monsieur Calvel, bonjour.
Bonjour,
vous êtes responsable de ces deux cathédrales, entre autres, parce que vous vous occupez de beaucoup de monuments. Et nous allons peut-être parler des matériaux de construction, très différents dans les deux cathédrales, les matériaux d'embellissement aussi, dans les chantiers gothiques, peut-être aussi un peu du rôle du fer, du plomb dans la construction, et surtout la polychromie, ce qu'on ignore, la polychromie extérieure et intérieure dans ces édifices. Peut-être un petit rappel, donc vous êtes architecte en chef des monuments historiques, vous vous occupez à Chartres non seulement de la cathédrale, mais aussi de différents autres...
Du château de Châteaudun et d'autres monuments historiques dont j'ai la charge jusqu'à maintenant.
Voilà, donc voilà. On peut peut-être représenter rapidement pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas trop la cathédrale de Chartres, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Quels sont les matériaux de construction de la cathédrale de Chartres ?
Essentiellement la pierre de Berchère, qui est une pierre locale, puisqu'elle est extraite à moins d'une dizaine de kilomètres de la ville.
Donc, ses propriétés ?
La carrière est une propriété privée.
Non, la propriété de la pierre de Berchère.
Ah, la propriété de la pierre de Berchère, oui. Non, c'est sa dureté, c'est sa robustesse, c'est sa non-gélivité et son caractère esthétique un petit peu particulier, parce que c'est ce qu'on appelle une pierre éveillée, c'est-à-dire pleine de trous, ce qui la rend très vivante dans le monument, tout en sachant qu'au Moyen-Âge, on comblait quand même ces trous avec de la chaux.
Ah, donc
elle s'est un petit peu vidée, mais par bonheur, sa robustesse fait que même quand l'eau s'y met, le gel se développe, ça ne la détruit pas, ou à tout le moins, il faut vraiment des siècles pour arriver à en venir à bout. Donc il n'y a pas eu de restauration majeure des pierres de cette cathédrale jusqu'au XIXe siècle.
Et vous avez pu observer sur l'actuel chantier au côté sud de la cathédrale de Chartres d'immenses blocs de cette pierre calcaire.
Ah oui, il y a
des hauteurs.
Il y a des blocs considérables. Il les montait avec des systèmes de démultiplication, avec des poulies, avec des grues à roues, des grues-cages, enfin tout un dispositif, mais des dispositifs qu'il maîtrisait parfaitement.
Et qu'on n'a plus, donc vous êtes tout à fait content de ne pas avoir à lever à nouveau ces blocs là-haut.
C'est-à-dire que moi, sur chaque chantier, je dispose au mieux d'une dizaine d'ouvriers, alors qu'à l'époque, vous en aviez 5 à 800 selon les cas. Il y avait énormément de...
Se marcher sur les pieds peut-être, non ?
Pardon ?
Il pouvait
sans doute se marcher sur les pieds un petit peu, mais en général, comme les échafaudages étaient... au moment de la construction, à tout le moins, a été dispersé sur la totalité du périmètre du monument intérieur et extérieur. Finalement, il ne se marchait peut-être pas tant sur les pieds que cela.
Alors, quelle pierre pose un problème sur la cathédrale de Chartres ?
Les pierres tendres du XIXe siècle, ou trop différentes de composition de la pierre d'origine, nécessairement moins dures, toutes sont moins dures. On ne sait plus un petit peu, à la fin du XIXe siècle, à utiliser la pierre qui servait déjà à la restauration de Notre-Dame de Paris, qui est la pierre de Saint-Pierre-Aigle. Qui est un matériau magnifique qui se comporte parfaitement à Notre-Dame de Paris, mais qui n'était pas du tout adapté à la cathédrale de Chartres et qui a souffert en bien des points, ce qui fait que je la remplace au moins ponctuellement, de nouveau, là où c'est nécessaire, par de la pierre de Berchère.
Oui, vous aviez...
Mais je ne peux pas tout enlever.
Oui. Et la rose sud, donc, de la cathédrale de Chartres, avait été remplacée ?
La rose sud a été entièrement remplacée en 1874, suite à une tempête à peu près équivalente à celle que nous avons eue en 1999, et elle s'était enfoncée, donc les architectes de l'époque ont préféré, plutôt que d'essayer de la restaurer, ont préféré la changer totalement.
Ils l'ont scellé comment, les différents claveaux ?
C'est scellé au plomb.
C'est
scellé au plomb.
Donc très traditionnellement, dans l'esprit du Moyen-Âge.
Oui, de toute façon, c'était fait de toute façon dans l'esprit du Moyen-Âge.
Donc le plomb est un matériau très important aussi dans la construction des chantiers gothiques.
C'est un des matériaux majeurs de la construction gothique, puisqu'il sert au scellement de tout ce qui est métallique dans cette architecture, et il sert à la couverture.
Oui, alors...
Puisque la couverture, à l'époque gothique, vous aviez, surtout sur ces monuments majeurs, vous aviez deux matériaux essentiellement. Vous aviez la pierre et vous aviez le plomb. Bon, le plomb de Chartres a disparu lors de l'incendie de 1836. On l'a remplacé, comme vous le savez, par une charpente métallique en fonte, qui est un chef-d'œuvre préphélien, qui est tout à fait exceptionnel, qu'on ne connaît pas, mais qui est une des plus belles charpentes en fonte du XIXe siècle. Et on l'a couvert en cuivre parce que ça permettait d'alléger largement et ça restituait quand même une silhouette très élégante à la cathédrale.
Mais le cuivre s'oxyde quand même et le vert de gris n'est pas forcément un produit anodin.
Il s'oxyde, mais vous voyez bien que ça n'a aucune incidence sur le reste des matériaux.
Donc quand il pleut, les eaux de pluie qui sont
Les eaux de pluie sont récupérées de toute façon dans des chaînons en plomb, donc ça ne pose aucun problème. Ça n'a aucune incidence sur les matériaux. Non, c'est un choix. Non, la seule chose qu'on ait changée à l'intérieur sur cette charpente, c'est qu'il y avait des petites entretoises, des petites tringlettes qui maintiennent justement cette huile de cuivre qui était en fer forgé, et on les a remplacées par des tringlettes en acier inoxydable, c'est tout, pour éviter leur corrosion.
Oui, autre pierre tendre qui pose sans doute un problème, c'est la pierre utilisée pour la statuaire. Pensons au portail royal où on a dû remplacer quelques statues.
On a déposé des statues qu'on a remplacées effectivement par des moulages, mais c'est pas tant lié à la pierre qu'à l'accentuation exponentielle de la pollution urbaine moderne.
Mais on parle de la maladie de la pierre.
La pierre, elle est liée justement à ces facteurs de pollution. Elle n'est pas propre à la pierre elle-même. La pierre ne comporte pas elle-même génétiquement si elle n'est pas soumise à des...
C'est l'attaque qui rend la pierre malade.
Voilà, exactement. C'est les attaques extérieures.
Et souvent
Elles sont plus, la pierre est plus ou moins robuste. Il est évident qu'on ne peut pas tailler de la sculpture. La sculpture des portails ne pouvait pas être taillée dans la pierre de Berchère qui n'est absolument pas adaptée à la sculpture, mais comme le granit ou des choses comme ça. C'est quand même une pierre très très robuste, la pierre de la sculpture. Ce sont des calcaires extrêmement denses qui se prêtent évidemment à la sculpture, mais regardez, elle est quand même... En plus, la sculpture du portail royal, c'était la sculpture romane, mais regardez les deux portails nord et sud des transepts qui sont gothiques. La pierre, elles sont évidemment beaucoup plus abritées, alors que le portail royal fait face à l'ouest, en plein vent, en pleine pluie fouettante. Donc on peut même estimer qu'elle était sacrément robuste, cette pierre, puisqu'elle tient quand même depuis les années 1150. On n'a jamais mis à l'abri que 3 ou 4 statues qui sont dans la crypte actuellement. Et le reste a tenu.
Après cet extrait du Salve Regina de Pergolèse, enregistré à la cathédrale de Chartres, aux journées lyriques de Chartres et d'Eure-et-Loir, nous voilà à nouveau dans le studio avec Patrice Calvel, architecte en chef des monuments historiques. Nous étions plongés dans les problèmes de conservation des pierres, des matériaux de construction des cathédrales, et nous voulions parler à l'instant de la conservation de la pierre, des statues à la cathédrale de Chartres.
Des statues qui sont évidemment dans une pierre moins dure, qui sont dans un calcaire moins dur, évidemment, que la pierre de Berchère, qui est un matériau de construction par excellence, mais qui ne se prête qu'à une taille, je dirais, simple, puisque ça ne va que jusqu'aux moulures, aux crochets. Déjà, on faisait les crochets sous les corniches, sont en pierre de Berchère, ça devait déjà être un travail considérable. Bon, mais on évoquait la sculpture, et actuellement, un des grands chantiers de la cathédrale se développe sur la façade occidentale. Tout en haut, nous restaurons une balustrade qui est en partie ancienne, mais qui a été fragilisée parce que pour pouvoir accéder sur cette coursive, on a déposé les tirants qui la maintenaient, qui la stabilisaient, et il y a un petit peu d'altération des pierres de Berchère qui sont là depuis le XIIIe siècle et qui nécessitent quelques reprises de consolidation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on profite de ce chantier surtout pour aller rendre visite à la Galerie des Rois, qui n'ont pas été vues depuis fort longtemps, puisque cette Galerie des Rois est entièrement d'origine du XIIIe ou du XIVe siècle. On ne sait pas trop exactement, parce que le pignon occidental, de même que d'ailleurs les deux pignons des transepts, ont été largement reconstruits au XIVe siècle, parce qu'ils avaient été construits un peu vite au XIIIe. Et les statues des rois, justement, en pouvant les examiner enfin de près, les historiens vont pouvoir effectivement les situer beaucoup plus précisément dans l'histoire de l'art. Mais c'est le type même de la sculpture qui n'a pas bougé. Il faut savoir qu'elle n'a souffert d'aucun acte de vandalisme, sauf le siège d'Henri IV au début de la deuxième moitié du XVIe siècle, où un boulet a éclaté une des statues. Tout le reste est intact. La statue a été remplacée au XIXe siècle, je crois, par Geoffroy de Chaume, qui était le sculpteur préféré de Viollet-le-Duc, mais ça reste à confirmer. À tout le moins, c'est la seule statue qui ait été refaite. Et on va les nettoyer, on va profiter de ce grand échafaudage pour les nettoyer, enlever les lichens et procéder à un certain nombre de consolidations, parce qu'évidemment, elles ne sont pas en pierre de Berchère. Et j'ai remarqué une main qui était un petit peu fissurée. Et si les rois ont la main lourde, vous imaginez que si la main tombe de près de 50 mètres de haut, elle peut faire très mal. Donc on est absolument ravis de pouvoir intervenir sur ce point. Mais vous voyez, ce seront uniquement des restaurations ponctuelles, un nettoyage, voilà. Une restauration ponctuelle qui remettra en valeur un ensemble exceptionnel qui est très peu connu.
Alors, vous parliez de cette main fissurée. On sait que certaines parties de ces grandes statues sont rajoutées au torse par des goujons en fer. C'est
voilà,
le plomb.
Exactement.
Là, ça peut poser aussi un problème, donc, à long terme.
C'est l'origine même des fissures
dans les statues,
que j'évoquais à l'instant. Ce sont souvent les crampons de scellement, les goujons, qui sont souvent eux-mêmes, d'ailleurs, des restaurations anciennes qui se sont faites au cours du temps. Parce que ces monuments étaient très entretenus.
Contrairement
donc,
à ce qu'on pense, peut-être.
Voilà,
il y avait
les vitraux étaient très entretenus.
Entretien très régulier.
Il y avait un entretien très régulier. Il y avait des chutes, il y avait un petit peu de vandalisme. Donc, ça nécessitait. Et souvent, on a utilisé énormément le fer pour les restaurations, le fer forgé.
Et le plomb.
Le plomb, lui, sert au scellement du fer.
Voilà,
quand le plomb est plus ou moins bien fait et que l'eau peut s'immiscer, la corrosion se développe et on sait que la corrosion fait gonfler le fer et le fer il fait éclater la pierre.
Alors, vous êtes en train d'examiner de très près les rois de la Galerie des Rois. Je sais que vous avez trouvé sur le portail sud aussi des traces de polychromie. Portail nord, on sait que tout était peint, veuillez...
Les monuments gothiques les monuments gothiques, les monuments du Moyen-Âge, les édifices du Moyen-Âge en général, y compris les maisons civiles, les palais, tout était peint, les anciens peignaient tout. Ce sont nos mœurs modernes et cette vérité du matériau qui nous a été instillée par les architectes du mouvement moderne, à commencer, n'est-ce pas, par notre cher Le Corbusier, qui font que tout le monde maintenant se tourne vers une prétendue vérité du matériau qui est de le décrouter, de le mettre à nu. Ce qui est une monstruosité, je dirais, archéologique. En réalité, tout était enduit, tout était peint, tout était orné, à la fois pour protéger les matériaux. Les maisons en pan de bois étaient toutes peintes, sans exception. Ça protégeait le matériau et en même temps, c'était une façon d'enchanter la vie dans un monde difficile. En donnant de la couleur, on rendait la vie plus agréable. L'impératif technique, et surtout chez les hommes du Moyen-Âge qui sont d'étonnants techniciens, c'est l'impératif technique parfaitement maîtrisé qui donne l'art. Il n'y a pas d'art sans technique.
Les deux sont liés, oui. On ne séparait pas ces deux éléments. Donc, il faut imaginer tout le portail royal aussi en polychromie.
Le portail royal était certainement peint. On n'a aucune trace reconnue parce qu'il a dû être lavé. Et il faut savoir qu'à partir du XVIe siècle, la redécouverte du monde antique et l'idée qu'on se faisait que toute la statuaire antique était blanche et que c'était le merveilleux marbre blanc seul on s'est mis à tout peindre, on s'est mis à brosser les polychromies médiévales et on s'est mis à tout peindre en blanc. Et si vous voulez, le portail royal, manifestement, tout a été évacué sur le portail royal, sur les deux autres aussi sans doute, mais quand on a restauré le portail portail nord, on a déjà trouvé quelques traces de polychromie. Par exemple, le jugement de Salomon, vous voyez que le bourreau africain a gardé sa carnation noire et que deux des témoins ont encore leur carnation blanche. On voit les pupilles des yeux. Et au trumeau central du portail nord, la statue de Sainte-Anne, quand on était sur l'échafaudage et qu'on l'a nettoyée par microgommage, parce qu'on ne peut pas la utiliser de laser, on a trouvé tout le
décor.
Alors
le microgommage se fait comment ?
Le microgommage, c'est une projection de poudre d'alumine. Ça n'a rien à voir avec le sablage. Ce sont des produits très fins. Moi, j'ai nettoyé entièrement l'abbaye cistercienne de Flarens avec des projections de poudre de noyau de pêche. Pour vous donner une idée de toutes les orientations, toutes les recherches qu'on a fait dans le service des monuments historiques avec des entreprises et le laboratoire pour trouver des matériaux parfaitement adaptés à chaque
petit
fois.
Soin,
mais pour en revenir à la statue de Sainte-Anne au portail nord, elle a un châle qui était extraordinairement peint avec des motifs coptes à petites rouelles dont on voit très bien le spectre à l'arrière de sa tête quand on est sur un échafaudage.
Donc,
ça
il
veut
encore
dire
des
à quel degré de finesse et de précision il poussait le décor. Et quand nous avons fait les études sur le portail sud, là, rien que sur un seul des tympans, on a trouvé plusieurs centaines de traces de polychromie. Donc tout était peint. Mais la toute dernière découverte, c'est presque un scoop pour Chartres, c'est que je me suis aperçu à l'occasion de la restauration des vitraux du chœur qu'elle était badigeonnée d'ocre jaune à l'extérieur et qu'on en trouve un nombre considérable de traces dans les parties qui étaient protégées de la pluie directe.
Alors, quand on nous loue là, donc la blancheur de la pierre de Perchère, en fait, on l'a badigeonnée. Parce qu'on ne laissait pas un centimètre carré, comme
voilà,
dit Michel
Boutier,
à nu.
Il devait badigeonner assez légèrement, plus ou moins, de façon plus ou moins importante et plus ou moins répétitive, parce qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs couches de badigeon.
Alors, avant la prochaine pause musicale, parlons de la cathédrale d'Albi, qui est faite d'un
autre
matériau
évidemment.
De construction.
C'est tout autre chose. C'est l'opposition complète, puisqu'elle est en briques. C'est une cathédrale entièrement bâtie en briques foraines. Les murs de fondation font 7 mètres d'épaisseur. Évidemment, la raison d'utilisation de ce matériau, c'est d'abord la disposition de l'argile, le savoir-faire dans les pays du Sud-Ouest avec l'argile depuis la plus haute antiquité. Et puis, c'était aussi un matériau extraordinairement robuste, en particulier pour les murs de forteresse, puisque c'est un matériau qui défiait complètement la sape, puisque les outils, les instruments métalliques de l'époque s'usaient de façon, s'érodaient de façon invraisemblable. Et quand Richelieu a voulu faire démanteler le palais de la Berbie, le palais épiscopal, qui est associé à la cathédrale d'Albi, les ouvriers sont arrêtés très vite. Ils ont réussi à abattre à peu près le quart d'un des donjons et puis se sont arrêtés là parce que c'était ingérable. Et une autre... Voilà.
Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous voilà à nouveau dans le studio avec Patrice Calvel, architecte en chef des monuments historiques. Nous étions en train de parler de la cathédrale d'Albi, construite en briques roses. Et justement, je vous demandais, pendant la petite pause musicale, qui est un extrait de la Missa in Augustis de Joseph Haydn, quelle était la taille de ces briques ? Il doit y avoir des millions de briques.
Il y a des millions de briques qui sont un petit peu plus grandes que le format 21-29-7.
Donc une petite feuille de papier.
Oui, elles font en gros entre 6 et 8 cm d'épaisseur pour 35-36 de longueur et 22-24 de large selon les modèles qui variaient un petit peu d'une région à l'autre du sud-ouest.
Voilà, et vous nous aviez confié que les murs ont...
Oui, à la base, les murs à Albi, à tout le moins, sont extrêmement larges puisqu'ils font 7 mètres d'épaisseur, parce qu'il y a un très grand alutage en soubassement qui porte des contreforts hémicirculaires qui montent sur toute la hauteur de la façade, puisque la cathédrale d'Albi est un peu une forteresse bâtie par Bernard de Castanet, qui était le grand inquisiteur de France et qui avait été envoyé là-bas pour résorber définitivement, n'est-ce pas, le catharisme qui avait déjà été vaincu militairement en 1244 auprès des Crémins à Montségur, mais qui continuait quand même qui se maintenait encore un petit peu. Et ce grand personnage avait été envoyé là-bas pour résorber définitivement le problème cathare, si on peut parler de la sorte.
Ils ont gardé un mauvais souvenir de Simon de Montfort, que l'on trouve dans un vitrail.
Voilà, qu'on a dans un vitrail. Et évidemment, quand je montre les sept roses aux chevaliers de la cathédrale de Chartres à des gens d'Albi, ça soulève toujours un tollé. Et on ne comprend pas comment, moi qui suis moi-même originaire du Sud-Ouest, comment je peux restaurer les vitraux d'Albi. De Chartres.
De Chartres. Donc bon. Ils ont gardé grande rancune pendant 800 ans, c'est étonnant, 700 ans.
Il faut bien que je compense à Chartres les frustrations que j'ai à Albi où on n'a plus un seul vitrail parce que tout a été détruit, dispersé.
Il y a quelques restes quand même.
Il y a quelques restes, mais les fenêtres sont immenses. Elles ont une hauteur de 16 mètres de haut, oui. Avec des programmes avec des vitraux du XVIe siècle et il reste quelques figures.
Est-ce qu'on connaît le thème iconographique de ces verrières ?
Non, pas exactement. Pas exactement. Des grandes figures, évidemment, comme toujours au XVIe siècle, des grandes figures dans des architectures fines. Mais ça reste à vérifier, sans doute la théorie des prophètes et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament.
Tout à l'heure, nous parlions de la polychromie à Chartres, et puis Albi a une particularité, c'est peut-être la seule cathédrale au monde à avoir gardé une polychromie d'origine.
C'est la seule cathédrale peinte médiévale qui ait gardé sa polychromie d'origine. L'autre cathédrale qui a encore pas mal de polychromie, c'est Lausanne, mais plus ancienne. On a aussi redécouvert de la polychromie quand même ancienne à Quimper qui a été restaurée. À Chartres, on sait que l'intérieur de la cathédrale de Chartres était entièrement peint d'un simple décor à coupe de pierre dont il reste 75 à 80% en place sous l'encrassement, que nous espérons commencer à restaurer dès cette année, à dégager dès cette année. Mais la cathédrale d'Albi, c'est un décor de fête qui date, lui, du XVIe siècle.
Mais qui a été entretenu.
Qui a été maintenu, qui a été entretenu, et qui s'est intégralement conservé et qu'on restaure maintenant petit à petit, puisque j'ai commencé la restauration de ça il y a 3 ans.
Voilà, la particularité aussi d'Albi, c'est non seulement d'avoir été construite en briques, mais il y a une nef unique, donc il n'y a pas de contrefort ni d'arc-bouton à l'intérieur.
Les contreforts sont intérieurs.
Voilà, qui créent des alvéoles qui, en elles-mêmes, sont des chapelles qui sont complètement
décorées.
Qui étaient des chapelles qui montaient de fond
sur 30 mètres de haut et qui ont été recoupées en deux par le cardinal, par Louis d'Amboise, dans les années 1475, quand il s'est installé sur la chaire épiscopale d'Albi et qu'il a terminé la cathédrale, enrichi la cathédrale, et il a terminé le clocher et il a fait les tribunes et pour permettre un accroissement de la présence des fidèles.
Donc la toiture à Chartres était en plomb, et il y a eu peut-être aussi l'enlèvement de la toiture de plomb à la Révolution, paraît-il. en tous les cas,
ici,
il y avait l'incendie de 1836.
Ici, à Chartres, une grande partie de la toiture de plomb avait été déjà enlevée, effectivement, la Révolution.
Donc, quand on intervient l'incendie de 1836, on a remplacé la toiture.
C'est déjà une toiture de plomb refaite.
Voilà.
Et refaite avec le plomb provenant des anciennes églises démolies de Chartres.
Oui, parce qu'on a détruit une trentaine d'églises,
peut-être,
à la Révolution.
Oui.
Donc aujourd'hui, nous avons à Chartres une toiture en cuivre. Quel est le matériau utilisé à Albi pour
Albi, c'est de la tuile canale. Albi, c'est de la tuile canale, mais la couverture est moderne. C'est-à-dire que si la charpente actuelle de Chartres est un chef-d'œuvre de l'architecture préeiffelienne de fonte, la charpente de la cathédrale d'Albi est un chef-d'œuvre de l'architecture de bois du XIXe siècle. C'est une charpente de César Daly qui est absolument inconnue, que je m'apprête à dessiner pour la première fois et qui est un monument absolument étonnant, qui a pas mal souffert, qui est certainement fait en sapin venant d'Amérique, qui n'est pas en chêne, et qui est couverte de tuiles canales, suite aux travaux que César Daly a fait sur cette cathédrale, dont il a été chargé entre 1840 et 1870, et qu'il avait surélevé parce que, en déposant la vieille couverture de tuiles canales qui avait été posée directement sur les reins des voûtes, parce qu'il n'y avait plus d'argent après le départ de Louis d'Amboise, les évêques successifs n'ont pas eu la même fortune et les mêmes capacités d'investissement dans leur cathédrale. Donc ça n'avait pas été terminé, et César Daly, en 1840, quand il a découvert cette cathédrale, s'est aperçu au sommet qu'il y avait un chemin de ronde et qu'elle était véritablement militarisée, qu'elle était vraiment traitée comme une forteresse,
une vraie citadelle
qui le séparait de la ville. Et donc il a inventé un véritable couronnement de cette cathédrale avec un chemin de ronde militaire à deux niveaux. Il a voulu couvrir des contreforts hémicirculaires avec des petits clochetons, et là ça a fait un tel tollé que malheureusement il a été démis de ses fonctions en 1870, parce qu'il était littéralement en train de transformer la cathédrale et d'essayer de transformer la cathédrale d'Albi en cathédrale du nord de la France, ce qui est absolument,
ça serait un contresens,
évidemment,
c'est
un contresens, mais bon, c'était un petit peu dans l'esprit du 19e siècle où on avait le modèle gothique absolu sous les influences conjuguées, n'est-ce pas, de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo et du dictionnaire raisonné d'architecture de Viollet-le-Duc. Mais ces deux génies avaient des suiveurs qui n'étaient pas toujours à la hauteur, en particulier en architecture, et ont fait porter à Viollet-le-Duc le chapeau de beaucoup d'erreurs qui ont été faites par de pâles suiveurs.
Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure du rôle du plomb et du fer, parce qu'on a constaté que les cathédrales gothiques, et ça vaut aussi pour Chartres apparemment, ne sont pas constituées de la seule pierre que l'on utilisait en fait pour sceller, pour solidifier toute la structure des chaînages en fer. Est-ce qu'à Albi aussi, on a trouvé du fer, ou est-ce qu'on n'en a pas besoin grâce à la brique qui est très solide?
Pour l'instant, à cause de l'épaisseur considérable, on n'a pas trouvé de fer à Albi. On ne l'a pas recherché systématiquement, volontairement, mais ça fait quand même 22 ans que je m'occupe de la cathédrale d'Albi, et je n'ai pas encore trouvé un morceau de fer ancien.
Donc pas de traces.
Il n'y a pas de traces, mais ça se comprend très bien à cause de la massivité des structures. Par contre, à Chartres, on savait qu'on avait utilisé au moment de la construction des tirants en bois, puisqu'on en a trouvé les traces dans les empochements au niveau des grandes arcades de la nef.
On voit des trous d'ailleurs au-dessus du chapiteau.
On voit des trous, et dans ces trous, on a trouvé des vestiges de bois qu'on a datés par dendrochronologie et qui ont permis de bien dater les époques, les dates de construction de Chartres.
Vous avez une date?
J'ai plus exactement en tête, mais je crois que dans les années 1210, on a des repères assez précis, et même avant. Par contre, ce dont je me suis aperçu dans Chartres, c'est qu'il y avait aussi des tirants métalliques dont j'ai trouvé des vestiges, parce qu'ils ont été recoupés en particulier dans les refends qui séparent les combles des bas-côtés.
Le temps a passé très vite, Monsieur Calvel. Je vous remercie beaucoup. Il faut refaire des émissions avec vous. Une demi-heure, c'est trop peu pour plonger dans tous ces problèmes. Très intéressant. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il y aura les journées d'études en octobre 2008 organisées par le Centre international du vitrail, week-end du 11 du 12, pour ceux qui voudraient s'intéresser, s'inscrire à ces journées d'études qui vont parler des matériaux de construction dans le chantier gothique au Centre international du vitrail. Merci beaucoup, Monsieur Calvel. Au revoir, chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Merci.